Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du cinéma, une émission encore un peu différente aujourd'hui parce que vacances d'été, parce que nous sommes en août, la France tourne un peu au ralenti et que et les choses reprennent petit à petit toujours les choses reprennent difficilement. Et aussi aujourd'hui je vais vous parler, avant de vous parler des sorties salles, de quelques sorties salles que je trouve intéressantes, je vais faire un petit détour par, en vous parlant d'un grand de la musique, un grand de la musique qui s'est éteint le 6 juillet dernier, Ennio Morricone, qui n'était pas qu'un grand de la musique de film, c'était tout simplement un grand de la musique, voilà. Alors nous allons écouter un petit peu d'Ennio Morricone ensemble. Ennio Morricone était né le 10 novembre 1928 à Rome. Il étudie la musique au conservatoire Santa Cecilia, toujours à Rome donc, et où il se spécialise dans la trompette. Il se fait d'abord remarquer en travaillant pour Sergio Leone quand il compose la musique pour une poignée de dollars. Ennio Morricone a composé plus de 500 musiques de films, autant pour des films policiers, des films d'horreur, des giallo, des drames, des comédies et des westerns, tant en Italie qu'aux États-Unis ou en France. Il a pu collaborer avec des cinéastes aussi prestigieux que Sergio Leone, bien sûr, mais également William Friedkin, John Carpenter, Dario Argento, Brian De Palma, Samuel Fuller, Sergio Solima, Yves Boisset, Lucio Fulci ou Don Siegel, ou encore Pier Paolo Pasolini, pour n'en citer que quelques-uns. Pour lui rendre hommage, j'ai fait une sélection de ses partitions parmi les plus méconnues, ou que j'apprécie particulièrement, dont celle qui passe en ce moment, la BO d'une coproduction italo-allemande de 1972, réalisée par Michele Lupo, dans laquelle Kirk Douglas incarne un voleur de haut vol, si j'ose dire, qui sort de prison, mais qui veut quand même tenter un dernier gros coup avant de se retirer. Il va prendre un associé sous les traits de Giuliano Gemma. Seulement, entre les deux hommes, va s'interposer une femme. Voilà, on est dans la logique du film noir. C'est entre le film de casse et le film noir. Qui dit film noir dit femme fatale. Et quand elle prend les traits de la belle Florinda Bolcan, on se doute bien que ça va être explosif entre les deux hommes. Et le film s'intitule « Un homme à respecter », comme l'est ce génie de la musique de film, Ennio Morricone. Thank you. 6 ans plus tard, il retrouve le célèbre acteur-producteur dans une autre coproduction, cette fois entre la Grande-Bretagne et l'Italie, Holocaust 2000. À cette époque, le cinéma italien était très prolifique, hein, et certains réalisateurs n'hésitaient pas à reprendre les grands succès du cinéma états-unien pour en faire leur version à eux. C'est le cas de Alberto De Martino, qui après avoir livré sa version de L'Exorciste avec l'Antéchrist en 1974, signe ici sa version de La Malédiction de Richard Donner. Dans cette relecture italienne de La Malédiction de Richard Donner, qui sort donc en 1977, Kirk Douglas incarne un riche industriel qui veut faire construire une énorme centrale nucléaire. Alors, au fur et à mesure que le film avance, d'étranges incidents vont émailler la construction de cette centrale. Des fanatiques religieux vont tenter de s'interposer, de lui mettre des bâtons dans les roues. Et au fur et à mesure, ce géniste industriel va découvrir que, en fait, son propre fils, oui, est l'Antéchrist. Et la centrale nucléaire ne sera que l'incarnation de la bête de l'Apocalypse. Il s'agit bien évidemment d'une relecture écologiste de l'Apocalypse selon Saint Jean. Maintenant un autre morceau, un morceau qui clôt ce film d'Alberto De Martino que personnellement j'aime beaucoup, hein, avec une fin en demi-teinte, une fin plus ou moins optimiste mais qui fait écho quand même à la situation de la planète actuelle. Je trouve que c'est un film qui est encore toujours d'actualité malgré son côté fantastique, hein, grandiloquent. C'est quand même un film qui fait toujours écho à la situation actuelle, à l'écologie qui nous préoccupe de plus en plus actuellement. Toujours en 1977, on reste dans le fantastique avec ce qu'Ennio Morricone a composé pour l'hérétique L'Exorciste 2. Donc à la suite au film de William Friedkin qui cette fois est réalisé par John Boorman. Donc une suite qui est souvent moquée alors qu'elle se révèle plutôt intéressante, qui suit une autre direction que le film de William Friedkin qui était à la fois fantastique et très réaliste, quasi documentaire dans sa façon de traiter le fantastique. Et, en effet, pendant un temps, John Boorman, dans les années 70, a signé des films plus existentiels, parfois à la limite de l'expérimentation, parfois un peu psychédélique, hein, comme Zardoz, hein, comme le montre Le Point de non-retour, qui est un très grand film noir. Hein. Et Zardoz, donc, comme je le disais, qui est un autre film conspué et incompris encore aujourd'hui. Pour cette suite, Ennio Morricone compose un thème plus mélancolique, avec une voix plus évocateur de l'adolescence et d'une certaine innocence. Compose un autre thème, celui du démon Pazuzu, le célèbre démon qui possède Regan dans le premier film. Et donc ce thème s'avère beaucoup plus dur, plus agressif, plus rapide, avec cette fois une composition à la guitare électrique. ne peut parler d'Ennio Morricone sans évoquer, bien sûr, le western. Hein. Le western, on associe les musiques d'Ennio Morricone au western. Il en a fait énormément. Hein. C'est un peu un cliché de l'associer au western, mais je vais quand même en parler un petit peu. Notamment, on sait qu'il a travaillé avec les trois Sergio. Sergio Leone, Sergio Solima et Sergio Corbucci. Pour Sergio Corbucci, il a composé l'excellente BO d'un western particulièrement nihiliste, Le Grand Silence, qui met en scène Jean-Louis Trintignant dans le rôle d'un pistolero muet qui fait face à une bande de chasseurs de primes dont le chef, sadique et cruel, prend les traits de l'inquiétant Klaus Kinski. Sergio Corbucci signe là un western très politique qui évoque la lutte des classes, et Ennio Morricone signe ici aussi l'un de ses plus beaux thèmes. Particulièrement sombre et violent, mais il y a quand même quelques passages romantiques. Il y a notamment ce passage romantique avec ce thème d'amour qui est plus mélancolique que vraiment sensuel. Thank you. Parmi les réalisateurs célèbres pour qui il a travaillé, Henri Verneuil revient souvent, notamment Le Clan des Siciliens, Peur sur la ville. Mais je reste sur le western avec, ou le pseudo-western avec La Bataille de San Sébastien, un film dans lequel Anthony Quinn essaye d'échapper à l'armée espagnole et se réfugie dans un village terrorisé par les Indiens Yaqui. C'est un film qui est plutôt rare aujourd'hui, hein. Je crois qu'il n'est pas édité ni en DVD ni en Blu-ray. Il y a également Charles Bronson, hein, qui donne la réplique à Anthony Quinn dans le rôle d'un Indien. Hein, Charles Bronson a souvent joué des rôles d'Indien dans les westerns. Et dans ce film, on peut trouver ce qui, à mon sens, hein, est certainement le plus beau thème romantique composé par Ennio Morricone. L'année suivante, il collabore pour la deuxième fois avec Gillo Pontecorvo, le réalisateur de Capo et de La Bataille d'Alger, pour Quemada, un film avec Marlon Brando sur l'esclavage. L'acteur hollywoodien y joue un mercenaire qui aide d'abord une île des Antilles à gagner son indépendance vis-à-vis du Portugal, pour y retourner plusieurs années plus tard, traquer le chef rebelle qui était à l'origine de cette insurrection et qui était aussi son ami. Thank you. On reste dans les histoires de conflits, de guerres et de rébellions avec ce film méconnu de Georges Pancosmatos, Représailles. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et à Rome, des résistants italiens commettent un attentat contre une patrouille allemande, causant la mort de 33 soldats allemands. Et ainsi, l'armée allemande, par représailles, décide d'exécuter 330 italiens, comme ça, pris au hasard. Et c'est à une véritable boucherie qu'on assiste dans ce film, une entreprise de mort. Il s'agit d'un film plutôt dur, hein, un film méconnu de Georges Pancosmatos, qui reste encore aujourd'hui, un réalisateur mésestimé, et qui signe là, selon moi, un film important sur la Seconde Guerre mondiale, sur cette page méconnue de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, autre grand cinéaste avec lequel Ennio Morricone a collaboré, c'est Elio Petri. Et Elio Petri, qui est un réalisateur plutôt engagé et qui est l'auteur de quelques films seulement, il n'en a pas fait beaucoup, quelques films seulement qui sont très marqués à gauche, dont le célèbre Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, ou encore La propriété, c'est plus le vol. Il a un style assez proche du baroque, hein, avec une caméra virevoltante. Il critique les puissants et évoque la lutte des classes. Et là, j'ai retenu la musique de l'un de ses films les plus engagés, qui est celle de La classe ouvrière ira au paradis.
Thank you.
Je vais maintenant passer à quelques sorties cinéma. On va rester un peu dans la thématique du travail avec un documentaire qui sort le 5 août. Dawson City, le temps suspendu, un documentaire états-unien réalisé par Bill Morrison. En 1978, au Canada, à 560 km au sud du cercle polaire arctique, se trouve Dawson City. Lors de travaux effectués à construire un centre de loisirs, le conducteur d'une pelleteuse fait surgir de terre des centaines de bobines de films miraculeusement conservées. Le réalisateur Bill Morrison compile ces différentes images constituées de films muets, de films d'actualité, d'images d'archives, de photographies historiques pour reconstituer l'histoire de cette petite ville née de la ruée vers l'or. Le film est accompagné d'une bande-son d'Alex Sommers et il dépeint très bien la ruée vers l'or, le désir qu'ont les gens de vouloir changer de vie, de trouver l'Eldorado et à travers ces images d'archives qui sont quand même parfois assez impressionnantes. Entre documentaires et fiction, on y trouve aussi des extraits de films de Charlie Chaplin, hein, La ruée vers l'or de Charlie Chaplin bien sûr, et ces diverses photographies prises par un photographe qui apparemment vivait là-bas. Donc il retrace la vie de cette ville, l'installation des saloons, le quartier des prostituées, et comment les gens étaient en quête d'une nouvelle vie. Et surtout, il montre comment s'est installé le cinéma dans cette toute petite ville, et que les films arrivaient là-bas, et ils restaient là-bas, ils étaient stockés dans cette petite ville de Dawson City, parce que les distributeurs ne voulaient pas payer pour qu'on leur renvoie les films. Donc les films restaient là-bas à Dawson City dans des conditions plus ou moins précaires. Et Dawson City finalement est non seulement un documentaire sur la naissance quelque part du capitalisme, sur les États-Unis au début du XXe siècle, des États-Unis parce que ce sont beaucoup d'émigrés états-uniens qui se rendent dans cette ville, des petites villes du Canada. Et aussi donc un portrait de cette petite ville du Canada qui se dépeuple petit à petit. Et aussi, c'est aussi un... On peut aussi y voir sur un film sur le côté éphémère des choses, la façon dont est considéré le cinéma encore aujourd'hui, là qui n'était considéré que comme un divertissement, parce que il se débarrassait des bobines, à force ça prend de la place, l'air de rien, toutes ces bobines. Donc il se débarrassait de ces bobines, il n'avait pas de conscience du côté patrimonial de ces films, de ces actualités, qui passait dans ces petits cinémas de Dawson City. Donc c'est aussi un film sur le cinéma, c'est aussi un film sur comment le cinéma a évolué et comment il marque les esprits, comment il est considéré par le public, mais aussi par le producteur et les distributeurs à l'époque. Donc c'est un film de deux heures d'images d'archives avec de la musique donc d'Alex Sommers pour illustrer le tout, et c'est un très grand film documentaire, c'est un excellent témoignage de l'époque, du début du XXe siècle dans cette petite ville canadienne, mais aussi du début du capitalisme, de la naissance des syndicats. C'est vraiment un chouette documentaire.
Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites quoi là? Vous faisiez quoi à la gare?
On va danser au concours.
Je t'enseigne vous. Quoi?
Oh mais les gens t'ont grave qui fait que tu vois tous les likes qu'on a eus.
Vous savez où passe l'esprit du mal? Ce sont ces femmes dénudées.
Pour le mariage de ton père.
Regarde comme elle te va.
Tu es une femme maintenant.
Ami!
T'étais où là?
T'as foutu quoi?
J'étais en retard.
En retard?
Je suis désolée.
Me dis pas.
Non.
Tu l'as volée?
Oh la teugla, j'y crois pas!
À quoi tu joues là, ami? Qui es-tu, ami?
Où est-ce que les loups, ma chérie? Dépêchez, c'est face avec.
Vous avez quel âge?
14. On va changer de pays, on va passer à toute autre chose. un film qui était plutôt attendu, hein, le premier long métrage de Maïmouna Doucouré. Maïmouna Doucouré qui, après avoir été césarisée en 2017 pour son court métrage Maman, donc réalise ici son premier long métrage, Mignonne. Mignonne qui a remporté le prix de la meilleure réalisation au Festival de Sundance en ce début d'année, qui devait ensuite sortir le 1er avril. Mais bon, pour les raisons que vous savez, la distribution, la sortie a été reculée, d'abord en juin, puis maintenant, enfin c'est sûr, le film sort dans les salles, après bien des déboires, le 19 août prochain. Mignonne prolonge l'univers de Maman avec des thèmes qui se rejoignent, se recoupent, notamment avec le personnage d'Ami. Ami est une jeune fille de 11 ans, un peu solitaire, qui vit avec sa mère et qui doit s'occuper aussi de son petit frère. Elle croise dans son immeuble une jeune fille qui vit dans les étages supérieurs. Et Ami est fascinée par son accoutrement sexy et le fait qu'elle prépare un concours de danse avec ses deux autres amis. Au fur et à mesure, elle décide d'intégrer leur groupe et va proposer une autre chorégraphie. Le personnage d'Ami ressemble à un prolongement de celui d'Aïda, hein, le personnage du court-métrage Maman. Une Aïda qui aurait grandi et serait alors confrontée à un monde plus sexué où l'enfance n'a plus le droit de citer. En effet, la jeune fille est prise en tenaille entre une société de consommation hypersexuée et des traditions qui veulent déjà lui apprendre à être une femme. Maïmouna Doucouré décrit des sociétés qui ne permettent pas à une petite fille de s'épanouir comme telle et qui favorisent l'instinct grégaire, le paraître et le mensonge pour finalement renvoyer les gens à leur mal-être et leur solitude. Un isolement également ressenti par sa mère qui se voit devoir partager son mari avec une coépouse. Pourtant très ancré dans la réalité, le sujet laisse aussi la place à l'imaginaire d'une jeune fille de 11 ans. La mise en scène se partage alors entre peinture d'un quotidien morne, les chorégraphies des amis d'amis filmées comme des clips, une imagerie proche du fantastique à certains moments. Maïmouna Doucouré fait preuve d'une grande maîtrise tant dans la technique avec ses nombreux plans-séquences cadrés en cinémascope que dans la gestion de ses différentes tonalités qui montrent aussi le dilemme de son personnage, son désir d'être une autre, d'être admirée. Sa mise en scène se révèle pudique, elle aborde avec finesse et intelligence des thèmes de société dont on parle peu au cinéma, comme l'accès très jeune à la pornographie, l'influence des clips de rap et l'image des femmes qu'il véhicule. Un tel sujet peut se révéler casse-gueule et donner lieu à un discours puritain, mais Maïmouna Doucouré ne s'impose pas comme donneuse de leçons et n'adopte pas de posture moralisatrice. Elle arrive à éviter cela parce qu'elle ne juge pas ses personnages et elle sait aussi user d'ironie. Parfois dans sa mise en scène. Cela lui permet de mettre en évidence les contradictions et l'hypocrisie d'une société qui favorise les hommes, où même les petits garçons se prennent pour des durs, reléguant les femmes au simple rôle de ménagère. Mignonne s'impose pour moi comme l'un des meilleurs films de l'année. En fait, je suis pas loin de penser que c'est même le meilleur, en tout cas le meilleur film français de l'année. Un petit coup d'agenda pour terminer l'émission. Nous sommes en été, donc le pop-up cinéma propose du 18 au 29 août 10 séances en plein air dans différents lieux d'Amiens, comme le parc du Grand Marais, le parc Saint-Pierre, le parc de la Haute-Oie, ou dans les alentours, comme dans les communes de Pont-de-Metz, Ébécourt, Glisier et Ferrières. Ce sera alors l'occasion de revoir, de découvrir des films comme Jurassic Park, Parasite, deux films de Louis-Julien Petit, Swaggers et Les Invisibles, ou ce chouette film d'animation qu'est Avril et le Monde Truqué. Les programmes sont disponibles dans l'ombre, on a eu un qui est tombé dans vos boîtes aux lettres, hein. Et sinon vous pouvez consulter le programme du Ciné Saint-Leu ou le JDA, vous aurez tous les détails de ces projections en plein air. Je vous laisse sur cette chanson de Yemi Alade qui est utilisée dans le film de Maïmouna Doucouré, Mignonne. Yemi Alade, Boum Boum, donc. Et donc, c'était Thomas Roland. Et vous étiez à l'écoute du cinéma. Je vous dis à la prochaine fois avec, je l'espère, plus de chroniques de films. En tout cas, ça en prend le chemin. Et si vous voulez m'écrire, si vous voulez me suggérer des choses, ou si vous voulez participer à l'émission, intervenir d'une quelconque façon, vous pouvez m'écrire à mon adresse email loupgaroupicard@gmail.com, loupgaroupicard tout attaché. En attendant, je vous quitte sur ces quelques notes de musique de la Nigériane Yemi Alade, et je vous dis à la prochaine.
shawty. Keep it a shake, yeah. Bum, 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 bum. Beep.